France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps, en Grèce, pendant une longue année, les Grecs ont eu très peur. Ils ont été à deux doigts de perdre leur liberté. L'immense empire perse, empire d'Orient, avait entrepris de submerger la Grèce en y déversant comme un déluge une immense armée, armée de terre et armée de mer.
Alors son armée est aussi nombreuse qu'on le dit.
Elle est plus grande que tout ce qu'on peut imaginer. Pendant 6 jours, j'ai vu les hommes passer. 6 jours. Et plus je comptais, plus je voyais venir de troupes. Ils assèchent les rivières où ils abreuvent. Et la nuit, ils ont plus de feu de camp qu'il n'y a d'étoiles dans le ciel.
Les dieux, qui se mêlaient encore de tout, semblaient être du côté des Perses. Enfin, les Perses le croyaient. Les Grecs avaient aussi reçu des signes divins positifs, mais ils étaient énigmatiques. Les Perses avançaient en territoire grec. La résistance face à cette marée montante était difficile.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
En effet, les Grecs n'étaient pas unis, alors que la masse guerrière qu'ils devaient affronter était conduite par un seul chef, Xerxès, grand roi de Perse, régnant en seigneur absolu depuis sa capitale, Suse, dans l'Iran actuel. Ce roi était le maître autoritaire et craint de tout ce qu'on appelait alors l'Asie. La dynastie des rois de Perse avait fini par dominer et à tenir fermement sous son autorité un immense ensemble de pays. Avec le temps, l'autorité perse était devenue de plus en plus despotique. Xerxès régnait sur un territoire gigantesque qui allait à l'ouest, du détroit de l'Hellespont et de la côte méditerranéenne de la Turquie jusqu'à l'Afghanistan et la vallée de l'Indus à l'est, sans oublier l'Égypte au sud. Les Grecs ne pesaient pas lourd face à cette masse inépuisable et unie de peuples, de villes, d'armées, de bateaux, de chevaux, de richesses. La Grèce était petite et elle était dispersée en plus d'un millier de cités qui se voulaient indépendantes. Ça n'aidait pas pour organiser une défense commune face à la déferlante d'une invasion que conduisait un chef unique. Une seule fois dans toute leur histoire, les Grecs avaient été unis pour une même action guerrière. C'était il y a très longtemps, à une autre époque. C'était pendant la guerre de Troie. Les Grecs s'étaient tous, ou presque, mis sous l'autorité d'un seul commandant en chef, le roi Agamemnon. Sous ses ordres, ils ont rassemblé des centaines de navires. Ils ont débarqué en masse devant Troie et ont fini par prendre la ville. Mais ça a été très pénible. Et surtout pendant cette guerre, les discordes, les querelles entre les chefs grecs, entre ces chefs et le roi qu'ils se sont donnés pour un temps, Agamemnon, ont été nombreuses et violentes.
Agamemnon, nous avons besoin de lui.
Silence !
Nous n'avons pas besoin de toi ou de tes hommes pour vaincre.
Tu ne gagneras pas sans moi.
Le poème grec le plus connu, le plus admiré, qui chante cette grande guerre lointaine, l'Iliade d'Homère, raconte en détail sur des milliers de vers, non pas la longue marche vers la victoire de l'armée grecque contre les Troyens, mais exclusivement l'une de ces querelles entre chefs grecs, la plus virulente et la plus désastreuse, celle qui a opposé un petit roi d'une région de la Grèce du Nord, le bouillant Achille, et le chef de toute l'armée, Agamemnon. Achille, le colérique, n'y était pas allé de main morte contre son supérieur Agamemnon. Il savait injurier.
Bouffi de vin. Œil de chien et cœur de cerf.
Il faudra du temps pour que la querelle entre Achille et son roi Agamemnon s'apaise. La victoire finale des Grecs deviendra possible, mais le prix à payer est immense. Des milliers de morts. Et s'imposera le constat que la Grèce n'a pas d'unité. Elle ne constitue pas une société amie d'elle-même. Elle est perpétuellement en risque de crise violente. La guerre de Troie, qui s'est achevée par la prise et la destruction de Troie, royaume asiatique fabuleux, n'a pas débouché sur l'unité de la Grèce. Les Grecs sont restés divisés. Mais cette guerre est d'une certaine manière l'origine de la Grèce. Elle est la preuve que si les dieux le veulent, elle peut pour un temps surmonter ces divisions profondes en vue d'un but commun, vaincre une grande civilisation barbare en Asie. Civilisation riche, fastueuse, développée et puissante, longtemps chérie des dieux. La Grèce, pour une fois réunie, mais dans la douleur, est venue à bout de cette société qui n'existe plus. Plusieurs siècles plus tard, la situation s'inverse. C'est l'Asie qui va attaquer la Grèce. Nous sommes longtemps après, au début du 5e siècle avant notre ère. L'Empire perse régnait sur tout ce que les Grecs appelaient Asie, et même sur les colonies grecques qui occupaient la côte méditerranéenne d'Asie mineure, juste en face de la Grèce. Ces colonies grecques se sont révoltées contre l'Empire, mais leur révolte fut sévèrement matée par les Perses. C'était du temps de Darios, grand roi de Perse, le père de Xerxès. Darios décida d'attaquer la Grèce elle-même qui avait soutenu cette révolte. Mais il fut sévèrement battu près d'Athènes, à Marathon, à exactement 42,195 km d'Athènes. C'est la longueur de la course moderne du Marathon, la longueur qu'a dû courir, selon la légende, le soldat de Marathon qui est allé annoncer la victoire grecque à Athènes. Il est mort d'épuisement. Après la mort de Darios, son fils Xerxès monta sur le trône et reprit le projet d'une invasion de la Grèce. Il décida d'attaquer en grand, avec une immense armée. Un historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, Hérodote, a entrepris de raconter en plusieurs livres cette action guerrière extraordinaire, la plus grande depuis la guerre de Troie. L'action entreprise par Xerxès finit par tourner au désastre pour les Perses. Hérodote veut que les événements de cette histoire ne tombent pas dans l'oubli.
Hérodote de Touriwa expose ici son enquête pour empêcher que ce qu'ont fait les hommes avec le temps ne s'efface de la mémoire et que de grands et merveilleux exploits accomplis tant par les barbares que par les Grecs ne cessent d'être renommés. En particulier, ce qui fut la cause que Grecs et barbares entrèrent en guerre les uns contre les autres.
Hérodote, l'historien, veut se faire l'Homère de cette guerre gigantesque entre la Perse et la Grèce, guerre encore récente, qui a l'ampleur de la guerre de Troie. Comme Homère, Hérodote n'a aucun mépris pour les barbares. Il raconte les exploits des uns et des autres.
François Hartog, historien.
Hérodote raconte ses enquêtes qui ont mis aux prises les Grecs et les barbares. Donc on a d'emblée le couple grec-barbare qui est donné. Tout grec des années 450 avant notre ère, entendant ça, trouvait ça probablement tout à fait normal. Oui, il y a les Grecs et les barbares. Bon, voilà, et ça représente l'humanité. Alors, bien sûr, c'est un couple complètement asymétrique, puisque vous avez d'un côté les minuscules petites entités grecques et le reste qui représente les barbares. Bon, donc c'est un couple qui ne fonctionne que du point de vue des Grecs et à leur profit. Mais l'intéressant est qu'il dit les Grecs et les barbares. C'est-à-dire qu'on peut parler de façon égale des deux.
Des généraux, nous dit Hérodote, ont convaincu Xerxès d'aller occuper la Grèce. D'abord, le grand roi ne doit pas se laisser insulter. Son pouvoir doit être absolu. Ensuite, les Grecs parlent tous la même langue, mais ils ne savent pas s'entendre. Divisés, ils n'arrêtent pas de se massacrer entre eux. Ils ne résisteront pas face à une armée perse unie. Enfin, l'Europe est un continent fertile. Sa beauté et sa richesse ne devraient pas échapper au grand roi, dit un de ses généraux.
Il ajoutait souvent que l'Europe était une contrée très belle, qui portait des arbres fruitiers de toute espèce, dont la fertilité était extrême, et que, seul parmi les mortels, le grand roi était digne de posséder.
Hérodote ajoute :
il parlait ainsi en homme avide de nouveautés, et parce qu'il voulait avoir pour lui le gouvernement de la Grèce.
Xerxès se laisse persuader. Il vient de succéder à son père Darios. Or, ce père a été très actif par ses guerres et a élargi l'Empire perse. Lui, Xerxès, n'a encore rien fait. Il ne veut pas passer pour inactif, faible. D'où ce projet de guerre contre la Grèce. Mais son oncle, le frère de son père Darios, un dénommé Artabanos, Artaban, argumente contre le projet d'une expédition en Grèce. Il trouve ce projet insensé et vu le résultat, un désastre total. Il avait raison. Artabanos rappelle qu'Athènes seule a vaincu Darios à Marathon. Face à un assaut plus massif, la Grèce s'unira même si elle est moins nombreuse. Et cela n'est pas un signe de faiblesse, au contraire. L'expérience montre que les dieux ne supportent pas les forces humaines grandioses, démesurées. La foudre tombe toujours sur les êtres les plus grands et épargne les petits. Une immense armée n'est pas sûre du tout de gagner. Xerxès est troublé par les arguments de son oncle. Il est prêt à renoncer, mais il fait un rêve. Un être divin le visite la nuit et le menace de ruine, d'insignifiance, s'il ne part pas en guerre contre la Grèce. Le rêve revient une seconde fois. Xerxès est désemparé. Il en parle à son oncle Artabanos, celui qui lui conseillait de ne pas attaquer la Grèce. Artabanos n'est pas vraiment impressionné. Les rêves, dit-il, sont flottants, incertains, peu fiables. Mais Xerxès veut être sûr. Il tente une expérience quasi scientifique. Il demande à son oncle de revêtir ses vêtements à lui, Xerxès, et d'aller dormir dans son lit, à sa place. Si le rêve revient et dit la même chose, c'est bien qu'il est divin et vrai. L'oncle sourit. Après tout, il peut faire cela, tellement c'est puéril. L'oncle met sur lui les vêtements de son neveu Xerxès, sa robe de pourpre où sont brodés des faucons, ses chaussures de safran, sa tiare. Il va s'asseoir un temps sur le trône de Xerxès, puis il se couche dans le lit de son neveu. Et le même rêve arrive et se fait encore plus menaçant. Ce rêve est ambigu. Il dit à Artabanos qu'il ne doit pas empêcher Xerxès de vivre son destin, qui est inévitable.
C'est donc toi qui exhortes Xerxès à ne marcher contre la Grèce sous prétexte de veiller à ses intérêts ? Mais ni dans l'avenir, ni dans le présent, tu ne gagneras rien à vouloir détourner ce qui doit arriver. Quant à Xerxès, ce qu'il aura à souffrir s'il refuse de m'écouter lui a été révélé à lui-même.
L'oncle est effrayé. Il pousse un cri. Il a l'impression que la figure du rêve va lui brûler les yeux au fer rouge. Il se précipite auprès de Xerxès. L'oncle et le neveu sont d'accord. Il faut attaquer la Grèce. Le dieu l'ordonne.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Bence bir sıkıntı yok. Ağır gelir. zaman hiç geçtin mi? Aşk şarabını kana kana içtin mi? Hayatın acısını, tatlısını, her şeyin en safını seçtin mi?
Pierre Judet de la Combe raconte la grande attaque de l'Empire perse contre la Grèce.
Xerxès réunit une immense armée en 4 ans. Il la met en mouvement vers la Grèce. Il passe par Troie, visite la citadelle de Priam, rend hommage aux héros de ces temps héroïques anciens. Après tout, avec son énorme armée, Xerxès va faire contre la Grèce ce qu'Agamemnon a fait contre Troie. L'histoire se répète, pense-t-il, mais dans l'autre sens. Mais un très violent orage envoyé par Zeus éclate. Il met l'armée perse en panique. Le premier grand obstacle à franchir est le bras de mer qui sépare l'Asie de l'Europe, le détroit de l'Hellespont. Le lieu est très dangereux. La mer y est souvent bousculée par de puissants courants et de grands vents. Mais Xerxès, qui veut asservir des peuples, c'est aussi dompter la nature, avec violence s'il le faut. Enfin, il le croit. Xerxès fait construire un pont de navire. Mais le pont est détruit, emporté par le courant. Xerxès se met en colère contre les eaux de l'Hellespont, qui ont été rebelles. Pour les punir, il les fait fouetter, l'historien Hérodote raconte.
Déjà le passage était établi quand survint une violente tempête qui mit en pièces et disloqua tout ce qui était fait. Lorsque Xerxès en fut informé, il ordonna, furieux, de frapper l'Hellespont de 300 coups de fouet et de jeter dans la mer une paire d'entraves. Même, j'ai entendu dire qu'avec les exécuteurs de ses ordres, il avait envoyé encore des gens pour marquer au fer rouge l'Hellespont. Ce qui est sûr, c'est qu'il enjoignit qu'en le flagellant, on prononça ces paroles barbares et insensées.
« Onde amère, le maître t'inflige cette punition parce que tu l'as offensé. » sans avoir souffert de lui aucune offense. Et le roi Xerxès te franchira, que tu le veuilles ou non. Certes, il est bien juste que personne ne t'offre de sacrifice, à toi qui n'es qu'un fleuve bourbeux et saumâtre.
Voilà comment il fit châtier la mer. Et à ceux qui avaient présidé à la construction des ponts sur l'Hellespont, il fit trancher la tête.
Xerxès fait construire un autre pont de navire, beaucoup plus solide. Il le fait recouvrir de végétation, pour que les chevaux ne prennent pas peur et se croisent sur la terre ferme. L'armée passe. La différence entre la mer et la terre a été pour un temps abolie par le roi. Rien ne doit résister à l'élan de l'armée issue de toute l'Asie. Xerxès ne mettra aucun frein à son avancée. La Grèce résiste, mais tombe, région après région. Xerxès arrive à Athènes. Il trouve la ville quasiment sans défense. Il l'occupe et l'incendie. Pourquoi les Athéniens ont-ils abandonné leur ville? Un oracle d'Apollon à Delphes les y avait poussés. Affolés par l'avance implacable de Xerxès en territoire grec, les Athéniens vont interroger le dieu dans son temple de Delphes. La prêtresse d'Apollon leur fait une réponse énigmatique, comme d'habitude.
À toi, je dirai cette parole que j'ai fixée avec de l'acier. Quand sera conquis tout ce que contiennent la colline de Kekrops et la grotte du Citéron très divin, Zeus, Dieu à l'ample regard, accorde à Athéna qu'un rempart de bois soit seul imprenable. Il sera profitable à tes enfants.
Athènes sera donc sauvée par un rempart de bois. Les Athéniens naïfs pensent que le dieu leur demande de se barricader dans l'acropole derrière des planches. Ils seront vite délogés par les Perses et l'acropole avec le temple d'Athéna, le Parthénon, celui d'avant, pas le moderne, celui qu'on voit aujourd'hui, sera incendié. D'autres, plus intelligents, comme le chef Thémistocle, comprennent qu'il faut abandonner la ville et faire front non sur terre, mais sur mer, sur des bateaux. Leurs coques seront le rempart de bois dont a parlé le dieu.
Un mur en bois ?
Un mur splendide. J'en connais la splendeur puisque c'est moi-même qui l'ai fait bâtir. Nos nouveaux navires athéniens manœuvrés par les plus courageux marins du monde. Voilà notre mur en bois. Le mur qui, d'après ce qu'a dit Zeus, sera le salut pour nous et pour nos enfants. Non, les dieux ne mentent pas. Fions-nous à leurs paroles.
Leur interprétation de l'oracle était la bonne. Les Athéniens quittent la ville. Les hommes valides s'embarquent sur les bateaux nouvellement construits. C'est un tournant dans la vie politique d'Athènes. Désormais, tout citoyen, même pauvre et incapable de se payer son armement, pourra être déclaré utile à la cité. La seule force de ses bras comme rameur sur un navire suffira à en faire un héros face à l'ennemi. La bataille qui s'annonce est aussi une victoire de la démocratie. Les bateaux de guerre athéniens se regroupent près de l'île de Salamine, juste en face d'Athènes. La situation est plus que critique. Athènes est tombée, dévastée. Les Perses ont rassemblé une masse considérable de navires qui profitent des infrastructures athéniennes puisque la ville et ses ports ont été conquis. Quant aux alliés d'Athènes, notamment les Spartiates et les Corinthiens, ils sont tentés de se replier sur leur territoire pour le défendre et donc de laisser les Athéniens à eux-mêmes, seuls, face aux Perses. Le chef athénien Thémistocle, chef démocrate richissime et, nous dit Hérodote, peu scrupuleux, parvient à convaincre les Spartiates de rester dans les eaux de Salamine. Pour cela, il n'a pas ménagé son argent et celui de la cité. Là, juste avant la bataille, ça vaut la peine de raconter un événement surprenant qu'on ne trouve que chez un seul historien, beaucoup plus tardif qu'Hérodote, un écrivain grec qui a vécu un peu après Jésus-Christ. Il s'appelle Plutarque. Cet écrivain raconte la vie de Thémistocle. Et tout d'un coup, il en vient à une histoire incroyable. Il dit la tenir d'un savant disciple d'Aristote. C'est donc du sérieux. Avant la bataille qui va s'engager avec la flotte perse, Thémistocle aurait procédé à un sacrifice humain. Il aurait immolé 3 princes perses pour en faire l'offrande au dieu Dionysos, le dieu mangeur de chair crue, en priant Dionysos de lui donner la victoire. Je reprends en la retouchant à peine la belle traduction de Plutarque, écrite à la Renaissance par l'évêque Jacques Amyot.
Mais ainsi, comme Thémistocle sacrifiait au dieu dessus la galère capitainesse, on lui amena 3 jeunes prisonniers, fort beaux de visage et richement parés de vêtements et de joyaux d'or, lesquels on disait être enfants de Sandacé, sœur du roi, et d'un prince nommé Artaïctès. Dès que le devin Euphrantidès les eut aperçus, ayant aussi observé qu'il était à leur arrivée jailli du sacrifice une grande et claire flamme, et qu'en même instant quelqu'un des assistants à main droite avait éternué, il prit Thémistocle par la main et lui commanda de sacrifier tous ses 3 prisonniers au dieu Bacchus, surnommé Homestès, qui vaut autant dire comme cruel, parce qu'en ce faisant, non seulement les Grecs sauveraient, mais emporteraient la victoire sur leurs ennemis. Thémistocle fut bien ébahi d'ouïr un si étrange et terrible commandement du devin, mais la foule, suivant sa coutume, qui est de se promettre plutôt salut dans les grands dangers et affaires presque désespérées, par moyens étranges et hors d'apparence de raison que par les raisonnables et ordinaires, se prit à invoquer le dieu tout d'une voix. et en approchant les trois prisonniers de l'autel, le contraignit de parfaire le sacrifice en la manière que le devin l'avait ordonné. Ainsi l'écrit Phanias Lesbien, homme savant en philosophie et ayant grande connaissance des histoires et de l'Antiquité.
Un sacrifice humain en Grèce, c'est tellement rare. Les Grecs seraient-ils eux aussi des barbares ? Cette histoire est-elle vraie ou inventée ? Pour un lecteur ancien, elle était tout à fait vraisemblable. En sacrifiant des princes ennemis, Thémistocle se comporte comme Achille, qui n'a pas hésité, lui, à égorger 12 jeunes princes troyens sur le bûcher funéraire de son ami Patrocle. Thémistocle immole ses princes ennemis pour plaire à Dionysos, le dieu du délire sanguinaire, le dieu qui mange de la viande crue, comme un sauvage. Et de fait, cette bataille sera une tuerie sanglante. Par ailleurs, Thémistocle répète avant la bataille l'acte initial qu'avait accompli le commandant en chef de la flotte grecque, le roi Agamemnon. Agamemnon a immolé devant toute l'armée sa fille Iphigénie pour que ses bateaux puissent faire voile vers Troie.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Tout est affaire de décor. Changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis. Moi qui me traîne et m'éparpille. Et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles. On faisait des châteaux de sable. On prenait les loups pour des chiens. Tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était-elle ou non drôle? Moi si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Le ciel était gris de nuages. Il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage. Je passais comme la amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes nuits? Que faut-il faire de mes jours? C'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des
Pierre Judet de Lacombe nous parle de la bataille de Salamine, quand les Perses, se percèrent.
Pourquoi la tragédie, elle surgit? Pourquoi elle apparaît? Elle semble contemporaine à la fois de la tyrannie et d'une certaine manière de la lutte contre la tyrannie.
Pierre Vidal-Naquet, historien.
Pourquoi elle disparaît pour se transformer à la fin du 5e siècle? Alors, la mémoire mythique est toujours là.
Le mythe, la tragédie, l'histoire se mêlent. Les héros réels, comme Thémistocle, se prennent pour des héros de légende, des héros du passé. Ces personnages ne se prennent pas pour n'importe qui. Thémistocle veut être la réincarnation des plus grands héros de la guerre de Troie. Il se donne des allures d'Achille et d'Agamemnon, qui ont osé sacrifier des êtres humains. Et pendant la bataille, on le verra, il se donnera des allures d'Ulysse, le rusé, le fourbe, qui s'en sort toujours, en envoyant de faux messages à Xerxès. Xerxès, l'envahisseur, fait pareil. Il se prend pour un Agamemnon asiatique, et même pour Zeus. Xerxès a fait dresser pour lui-même un trône d'or en face de la mer, face à Salamine, pour tout voir de la bataille. Comme Zeus s'est installé sur le mont Ida pour voir les combats entre Grecs et Troyens. Xerxès s'est fait entourer de secrétaires qui notent tout, comme les muses, filles de Zeus, ont regardé et enregistré tous les événements de Troie pour réjouir Zeus en les lui rappelant et pour les chanter aux générations futures. Le combat va commencer entre les bateaux grecs et les bateaux perses, nettement plus nombreux. Ce sera un grand désastre pour la flotte perse, pour Xerxès et son armée. Mais laissons là les historiens et écoutons plutôt l'un des combattants de cette bataille, Échille, l'Athénien. Avec son frère, il a pris part au combat et y a reçu plusieurs blessures. Il était aussi poète, auteur fameux de tragédies. 8 années après la bataille, en 472 avant notre ère, il a écrit une tragédie sur cet événement qui a décidé de la liberté d'Athènes et de la Grèce, les Perses. La production de la pièce a été financée par Périclès, un leader démocrate comme Thémistocle, le grand vainqueur de la bataille de Salamine.
Qui donna le signal du combat? Les Grecs? Ou bien mon fils, trop confiant dans la supériorité de ses forces?
Tout notre mal, ô ma reine, est né de la haine d'un dieu, d'un génie inconnu. Écoute, Xerxès avait établi son camp sous les murs même d'Athènes, que ses habitants avaient abandonné pour se réfugier dans l'île de Salamine, sous la protection de l'armée et de la flotte grecque.
Cette pièce, Les Perses, est stupéfiante. Elle est écrite par un grec, jouée devant un public en très grande partie grec, par des acteurs et des chanteurs grecs avec toutes les ressources normales de la tragédie grecque. Musique, danse, instruments, langage, jeu des acteurs. Mais cette tragédie, qui donne une grande place aux chants, aux plaintes, aux longs récits lugubres, oblige les Grecs à revivre leur victoire, non pas de leur point de vue de vainqueur, mais du point de vue de l'ennemi vaincu et effondré, les Perses, qui occupent toute la scène. Aucune voix grecque ne se fait entendre dans cette pièce. On est dans l'intimité accablée des Perses.
Un homme venu secrètement de chez les Athéniens s'est présenté à ton fils et lui a dit « Les Grecs ont assez attendu. Ils ont décidé de fuir Salamine. Ce soir même, à la faveur des ténèbres, leurs navires lèveront l'ancre et se disperseront dans la nuit. »
À ce spectacle, le public grec ne pouvait pas ne pas être très ému par la musique, par les paroles de deuil, par les longues listes des chefs tués, par l'ampleur du désastre de l'ennemi. Le public grec était amené à être triste sur l'événement qui en fait l'a sauvé 8 années auparavant. Il était amené à entrer dans la souffrance de son ennemi, à la comprendre et à la ressentir intimement. Un tour de force intellectuelle et émotionnelle. Le théâtre, s'il le veut, permet cela. Dans la pièce apparaissent d'abord de vieux notables perses. Ils sont restés dans la capitale de l'Empire, à Suse. Le grand roi Xerxès leur a confié le pouvoir pendant son absence. Ces vieux perses forment le chœur. Ils commencent par exprimer leur douloureuse angoisse sur le sort de leur armée. Ils ne savent pas encore ce qui est arrivé. Ils n'ont reçu aucune nouvelle. C'est le tout début de la pièce. Le chœur des vieux perses s'identifie devant les spectateurs.
Ici même, pour les Perses en aller en pays grec, ceux qu'on nomme les fidèles,
sentinelle des riches résidences chargées d'or, que selon le rang de vénérabilité, le prince lui-même, Xerxès, roi né de Darios, a choisi pour qu'il gouverne le pays. S'agissant du retour, l'heure royale et celui de l'armée couverte d'or, mon cœur se fait maintenant trop mauvais de vin. Il griffe les chairs au fond de moi, car toute la force native de l'Asie s'en est allée. Et pas de messager, pas de cavalier qui arrive à la ville des Perses.
Puis le cœur fait le catalogue des forces qui sont parties. On y retrouve toute l'Asie. C'est comme si toute la puissance autochtone asiatique, la force née de la terre d'Asie, s'était muée en un immense déferlement, en une mer de violence déchaînée par le roi pour inonder toute la Grèce. À cause de ce départ en masse, la terre est vidée de ses hommes et la tristesse et l'angoisse sont désormais partout.
Eux, laissant les murs de Suse et d'Ecbatane et le mur séculaire de Kissia, ils sont partis les uns sur les chevaux, d'autres sur les bateaux, et les fantassins, pas à pas, faisant un bloc de guerre. Ce sont Amistrès et Artaphrénès, Mégabatès et Astaspès, chefs des Perses, rois sujets du grand roi, qui se lancent, gouverneurs d'une immense armée, et les archers de mort et les hommes à cheval, vision de déroute, combattants terribles car leur âme a choisi le courage. À d'autres, le Nil puissant, infiniment nourricier, a ouvert la route. Sousicanès, Pégastagone, né d'Égyptos, et le souverain de la sainte Memphis, le grand Arsamès, et celui qui régit la Thèbes mythique, Ariomardos, et les coureurs de marée, terrifiants rameurs sur les bateaux, en nombre sans fin. Après eux, la masse des Lydiens aux pratiques délicates. Ils contrôlent un peuple tout entier né du continent. Mithragatès et Arcteus le capable, roi qui les commande, et Sardes comblées d'or les lance debout sur des milliers de chars. Compagnie à deux timons et à trois timons, vision de panique pour les yeux. Une telle fleur d'homme s'en est allée, poussée au pays perse. Sur eux pleure la terre asiatique tout entière, leur nourrice, à cause d'un manque de force. Parents et femmes au décompte des jours tremblent devant le temps qui s'étire.
Échille est très précis et méticuleux dans sa connaissance et son traitement des noms des grands chefs perses. Visiblement, il s'est bien renseigné. Il transcrit ces noms, que nous connaissons par des textes en langue perse, de manière que le public athénien perçoive la puissance qu'ils expriment. Ainsi, Artaphrénès, le nom d'un des généraux perses, sonne pour un grec comme l'intelligent, à savoir celui dont les pensées phrénès sont bien articulées, arti. Les Grecs avaient dans leur langue l'adjectif artiphrone, qui voulait dire saint d'esprit. Le nom Mégabatès dit en grec un roi à la marche puissante. En perse, c'était Bakabada, dont le premier élément Baka reprend le mot Dieu. Échille fait entendre à sa manière la force contenue dans le nom. Il donne aux Grecs l'impression qu'ils peuvent entendre quelque chose de la langue perse, que cette langue n'est pas si étrangère. Échille fait tout pour que les Grecs de son public se disent que les Perses, finalement vaincus, se pourraient être eux-mêmes. Il n'y a pas une différence d'origine, de nature entre les Perses et les Grecs, mais une différence de régime politique, une différence radicale dans le rapport à la liberté. Pour le faire comprendre, Échille reprend le mythe d'une Grèce et d'une Asie qui sont sœurs, mais ces deux sœurs se sont querellées. Cette dispute entre sœurs apparaît dans la pièce « Les Perses » sous la forme d'un rêve. Il est raconté sur scène par la vieille reine Atossa, la femme du grand roi Darios, maintenant décédée, la mère de Xerxès. La reine est affolée par son rêve. Elle demande au vieillard du cœur d'en donner une interprétation. Le rêve semble bien annoncer le désastre de son fils. Dans ce rêve, les deux sœurs, la Grèce et l'Asie, se disputent. Le roi Xerxès pense qu'il est de son devoir de roi de calmer cette querelle. Il passe des brides à l'une et à l'autre. Ça tourne très mal pour lui.
Combien de rêves dans la nuit viennent sans cesse s'unir à moi, depuis que mon fils, apprêtant une armée, s'en est allé avec le projet de piller la terre des Grecs. Mais jamais je n'en avais vu encore de pareil, et aussi clair que celui de la nuit passée, je vais te dire. J'ai eu l'impression que deux femmes, dans de beaux vêtements, l'une parée de robes perses, l'autre de robes doriennes, venaient devant mes yeux. Surpassant de loin celle d'aujourd'hui par la stature et d'une beauté sans défaut, c'étaient des sœurs parentes, du même sang. Elles habitaient l'une la Grèce, l'ayant reçue du sort comme terre ancestrale, et l'autre une terre barbare. À ce que j'ai cru voir, elles montaient une discorde l'une contre l'autre, et mon fils l'ayant su, cherchait à contenir et apaiser. Il les attelle aux joues d'un char, en passant à leur cou des sangles. L'une, avec cet équipage, se donnait un aplomb de citadelle et gardait dans les rênes une bouche facile à commander. Mais l'autre se débattait. À deux mains, elle écartèle le harnais du char, le tirant vers elle rudement, sans mort, et brise le joug par le milieu. Mon enfant tombe. À ses côtés se tient son père, Darios, plein de pitié pour lui. En le voyant, Xerxès déchire les robes qui lui enveloppent le corps. Je parle là de ce que j'ai vu la nuit. Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe.
Pierre Judet de Lacombe évoque l'étonnante pièce d'Eschyle, les Perses.
Les deux sœurs, la Grèce et l'Asie, se fâchent, comme elles se sont fâchées pendant des années. Xerxès réagit en roi. Il veut, comme tout bon roi, soucieux de l'harmonie de son royaume, arrêter cette querelle. Il considère que la Grèce, sœur de l'Asie sur laquelle il règne, est sous sa responsabilité. Le seul moyen qu'il trouve est la contrainte. Il attelle les deux sœurs à son char royal. La Grèce résiste farouchement. L'Asie, non. Elle est fière et docile. Dans sa rébellion, la Grèce disloque le char royal. Xerxès est à terre. Xerxès, dans ce rêve, considère comme normal de contrôler l'ensemble du monde. L'Asie et l'Europe, d'y établir l'ordre par un pouvoir autoritaire. Le rôle normal d'un roi est bien d'assurer la paix dans l'ensemble de son royaume. Pour Xerxès, le monde est une unité et doit donc subir la loi d'un seul maître, qui doit être hyperpuissant et despotique. Mais Xerxès va apprendre à ses dépens que ce n'est pas le cas. Il y a des limites. Le monde est divisé. La Grèce n'est pas l'Asie. Non pas pour des raisons de nature, d'origine. Les deux pays sont sœurs et leurs territoires leur ont été attribués par tirage au sort, mais pour des raisons politiques, pour des raisons de pouvoir. La Grèce, et notamment Athènes, n'admet pas de pouvoir despotique. C'est ce que la reine découvre avec surprise. Le cœur lui apprend ce qu'est la démocratie athénienne.
Je veux, mes amis, bien apprendre ces choses. En quel lieu de la terre dit-on qu'est établie Athènes ?
Loin, au bord des couchers où le Seigneur Soleil se défait.
Et c'est cette ville-là que mon fils rêvait de capturer.
Oui, car la Grèce tout entière deviendrait vassale du roi.
Il y a chez eux une telle profusion d'hommes pour l'armée ?
Et même une armée qui a su causer aux Perses une foule de maux.
Est-ce que leurs bras resplendissent avec la pointe qui tend l'arc ?
Pas du tout. Avec des armes de main et des harnachements lestés de boucliers.
Et quel berger de guerre est à leur tête ? Quel maître de l'armée ?
On ne les nomme ni esclaves, ni vassaux de personne.
Mais comment peuvent-ils tenir face à des ennemis venant sur eux ?
Comme il faut pour avoir réduit l'armée de Darius, grande et belle.
Tu dis là des choses terribles à penser pour les parents de ceux qui sont en route.
Les Athéniens n'ont pas de maître, sauf eux-mêmes. Et ils ont gagné, avec l'aide d'autres cités grecques qui se pensent libres, autonomes, comme Athènes. La nouvelle de l'immense désastre pour les Perses, qu'a été la bataille navale de Salamine, ne tarde pas à venir. Un survivant fait son apparition.
Ô vous, ville de tout le continent Asie, ô pays perse, port immense de la richesse, d'un coup est dévasté un immense bonheur. La fleur des Perses s'en est allée, abattue. Hélas! C'est un mal d'annoncer le premier un mal. Mais il est nécessaire de déplier toute la catastrophe perse. L'armée des barbares est totalement détruite.
Ce survivant raconte les horreurs qu'ont vécues les Perses. D'abord, ils ont été trompés par les Grecs. Leur chef a envoyé un faux message au roi Xerxès, lui faisant croire que la flotte grecque, inférieure en nombre, allait fuir de nuit en secret. Pendant toute la nuit, les bateaux perses tentent de la bloquer. Et en fait, ils vont se bloquer eux-mêmes. Arrive le petit jour. Et les Grecs, pas du tout effrayés, attaquent en bon ordre. C'est affolant.
La nuit passée. Et d'aucun côté, jamais, l'armée des Grecs ne fit de sortie en secret. Mais quand le jour et ses clairs poulains saisirent toute la terre dans une belle vision de lumière, alors, en premier, bruyamment venu des Grecs, une clameur lança un chant de bel augure, et avec elle, l'écho des roches insulaires ulula très haut en réponse. L'effroi était chez tous les barbares, déroutés dans leur idée, car les Grecs à ce moment ne chantaient pas en l'honneur de la fuite, le paiant grandiose. Ils se ruaient au combat avec l'audace d'une âme vive, et de son cri, une trompette embrasait tout là-bas. Tout de suite, en lançant ensemble la rame grondante, au commandement, ils ont frappé l'eau abyssale de la mer. Et vivement, ils étaient tous en vue, éclatants. Première, bien en ligne, l'aile droite menée avec ordre. En second, la flotte tout entière jaillissait après elle.
Les Perses entendent alors un cri incroyable poussé par les Grecs. Ce cri a clairement inspiré la Marseillaise, nos fils et nos compagnes. Et le chant de l'international avec sa lutte finale.
Et simultanément, un grand cri se faisait entendre. Fils des Grecs, en avant, libérez la patrie, libérez enfants et femmes et les maisons des dieux ancestraux et les tombes des anciens. Maintenant, la lutte décide de tout. Tandis que de notre côté, un grondement en langue perse se levait contre. L'instant n'était plus à l'attente.
L'assaut est lancé. Les bateaux perses trop nombreux se coincent les uns les autres. C'est le massacre. Le cri poussé par les Grecs montre l'incroyable audace dont ils ont fait preuve. L'enjeu est bien de sauver la terre, les cultes des dieux qui y sont implantés depuis toujours, de sauver les tombes des anciens et, en protégeant les femmes et les enfants, nos fils et nos compagnes, la capacité de la Grèce féconde à se renouveler. Il s'agit de sauver l'autochtonie, le lien naturel avec le lieu de naissance, car ce lien avec le passé et l'avenir est la garantie de la liberté. Or, cette défense du côté terrien de la ville se fait sur un élément qui est tout le contraire de la terre. Elle se fait sur la mer, lieu de tous les dangers, lieu de la surprise, de l'instabilité, et lieu aussi où on peut ruser et surprendre, comme les Grecs ont su surprendre les Perses. Athènes, les temples, sont en train de brûler. Mais après tout, ce n'est pas si grave si les Athéniens, enfants de la terre athénienne, savent inventer le bon moyen pour éliminer les envahisseurs incendiaires. La liberté réelle, efficace, ne consiste pas à se coller frénétiquement à son origine, à ses supposées racines. Elle est une action qui peut conduire à se détacher de son lieu de naissance. Elle est une idée et non pas une réalité donnée. Les Perses, eux, n'ont pas cette mobilité. Venus en masse depuis leurs terres asiatiques, affirmer leur puissance. Ils n'ont pas su ruser. Ils n'ont pas su être vraiment marins, comme ces autochtones de Grecs qui ont osé abandonner leur terre sacrée et natale pour mieux la défendre par une action purement stratégique. Xerxès, lui, reste fermement collé au passé, au mythe ancien, qu'il croit pouvoir répéter pour affirmer la grandeur ancestrale perse, léguée à ses pères par les dieux. Il a voulu revivre le mythe triomphant et sanglant de la guerre de Troie, en se donnant le rôle de Zeus, le dieu tout-puissant. Avec son armée, il a voulu mener une guerre de Troie à l'envers, d'Asie vers l'Europe. Il a cru qu'il pouvait refaire l'Iliade à son profit. Il a cru qu'on pouvait faire revivre la puissance du passé. Mais il ne laisse derrière lui que des cadavres innombrables, battus et défigurés par la mer. Les noms des morts perses résonnent comme une litanie interminable. On ne répète pas le mythe. Le public grec pouvait être d'autant plus touché par cet effondrement que les Perses, avec leur force, leur éclat, la magie de ces magnifiques noms héroïques, devaient leur rappeler le temps ancien et glorieux des héros qui ont combattu à Troie, le temps chanté par leurs propres poètes. Mais ce temps est passé, fini. Xerxès ne l'a pas compris. Sa chute est d'autant plus grandiose. Un mythe qui s'effondre est spectaculaire. Les Grecs, tels qu'Eschyle tente d'en donner l'image, se sont contentés de calculer, de ruser. Chez eux, dans la pièce, il n'y a aucune nostalgie d'un passé mythique qu'il faudrait essayer de reproduire. Ils agissent efficacement, c'est tout. Eschyle ne donne aucun nom de chef grec, alors qu'il multiplie les noms des chefs perses. Seul, du côté grec, l'action, l'efficacité compte. Après le récit par le messager perse de cette défaite grandiose, la pièce d'Eschyle est un long lamento de deuil.
« Ô Zeus, roi, maintenant tu as anéanti l'armée des Perses, aux grands parlés et aux guerriers en foule, et tu as enfoui les villes de Suse et d'Ecbatane dans un deuil opaque. Et des foules de femmes, déchiquetant leurs voiles de leurs mains tendres, mouillent de larmes leurs robes gorgées d'eau, prenant leur part de la souffrance. Les femmes perses, pleureuses raffinées, qui brûlaient de voir l'attelage tout neuf noué avec leur homme, disant adieu au lit des amours, aux étoffes raffinées, plaisir d'une jeunesse alanguie, mènent le deuil dans les plus insatiables pleurs. Et moi, je magnifie, comme il est juste, la mort des en-allées, douleur sans nombre.
Car maintenant, toute la terre d'Asie pleure, absolument vide. Xerxès a guidé, tristesse, tristesse. Xerxès a anéanti, mort, mort. Xerxès a tout mené sans intelligence, avec ses felouques de mer. Pourquoi Darios commandait-il alors aux citoyens, en chef archer qui ne nuisait pas, guide bien-aimé des hommes de Suse, fantassins et aussi gens de mer, de leurs ailes parentes, de leur étrave sombre, les bateaux les ont guidés, tristesse, tristesse, les bateaux les ont anéantis, mort, mort, les bateaux par les chocs qui font néant de tout et sous les coups des Ioniens.
Au théâtre, à Athènes, les Grecs vainqueurs devaient être saisis de tristesse en l'entendant ces plaintes. Ils devaient sortir d'eux-mêmes, s'ouvrir à la tragédie des ennemis, comme si elle pouvait être la leur. Ils la vivaient intimement, au moins le temps d'un spectacle. Le théâtre permet ce moment si précieux. Il offre la possibilité de s'éloigner du rivage rassurant de son propre mythe. Les belligérants fanatiques d'aujourd'hui feraient bien d'aller au théâtre.
Quand les dieux rôdaient sur la terre.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia.
Les archives sonores ont été choisies par Anna Massardier.
Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechen.
La programmation musicale est de Thierry Dupin. Bonne journée sur France Inter.